Continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière sur ce survol de l'Ancien Testament. Alors un petit quiz oral avant de commencer. On a dit que l'Ancien Testament est divisé en plusieurs grandes sections. Alors quelle est la première? On a d'abord quoi? Voilà, Pentateuque qui est combien de livres? 5. Très bien. Et à partir donc de Josué, nous avons les livres, c'est quoi? Les livres historiques. Et ces livres vont jusqu'à où? Quel dernier des livres historiques? Esther. Et on a vu qu'il y a deux thèmes principaux dans ces livres. C'est la terre promise, qui est après acquise, qui est après perdue à cause du péché, et puis acquise encore de nouveau grâce à la fidélité de Dieu. Et l'autre thème, c'est quoi dans ces livres? Non, mais dans les livres historiques, je veux dire, quel thème? Nous avons la terre et nous avons quoi? Je t'entends pas. Oui, gouvernance, voilà. Les rois ou les juges, nous avons des livres comme Juges ou 1 Samuel, 2 Samuel qui concernent Samuel comme dirigeant, puis Saül et David. Et puis nous avons des livres des rois et nous avons les chroniques. Mais ces chroniques de quoi? C'est les chroniques des rois encore. Très important parce qu'il faut un dirigeant, il faut quelqu'un qui peut gouverner. Et nous voyons que même Salomon, il n'a pas pu le faire. Nous attendons encore celui qui va régner avec justice et équité. Et après les livres historiques, nous avons les livres quoi? Poétiques. Et là, donc, on a Job jusqu'à Cantique des Cantiques. Et là, le thème change. Le style change, c'est très différent, de partir d'Esther jusqu'à Job, on changeait complètement de style. Et puis nous terminons avec les livres prophétiques. Et nous avons ce qu'on appelle souvent les grands prophètes, parce qu'il fallait tout un rouleau, parfois deux, pour un seul prophète. Et puis les petits prophètes, parce qu'on mettait plusieurs sur le même rouleau. Voilà. Alors, j'ai demandé à mes enfants si, la semaine dernière, si ça leur motivait de lire l'Ancien Testament. Ils m'ont dit, bon, ça m'a plutôt fait peur. Donc, aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir vous motiver un peu plus à lire l'Ancien Testament. Et nous voyons d'abord la première chose, le numéro 2, parce qu'on reprend ce qu'on a fait la dernière fois. L'importance de l'Ancien Testament aux chrétiens. L'importance de l'Ancien Testament aux chrétiens. Ayant considéré ce que nous avons vu la semaine dernière, on n'est pas surpris que l'Église naissante du Nouveau Testament a dû lutter avec le rôle et la place de l'Ancien Testament dans la vie de l'Église chrétienne. C'est pour ça qu'il y a eu ce concile que nous lisons en acte 15 qui concernait cette question. Comment appliquer l'Ancienne Alliance aux croyants païens? Et quand vous lisez Galates, quand vous lisez d'autres épîtres de Paul, vous voyez qu'il y avait vraiment cette... Parfois, on peut dire guerre entre ceux qui insistaient qu'il fallait que les chrétiens soient circoncis, qu'ils gardent les lois de l'Ancien Testament, et Paul qui disait non, le croyant est sous une nouvelle alliance. Et un théologien a dit que ce n'est sans exagération de dire que cette question est devenue le plus grand problème de l'interprétation biblique dans la théologie chrétienne. C'est-à-dire, quelle question? Quelle est la place de l'Ancien Testament dans la vie des croyants du Nouveau Testament? Alors, où voyons-nous l'importance de l'Ancien Testament aux chrétiens aujourd'hui? Et la première chose, c'est tout bête, mais nous avons une Bible. Et une majorité de la Bible se trouve sous ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance. Quel pourcentage? Quelqu'un veut deviner? Quel pourcentage du canon chrétien, c'est-à-dire de la Bible chrétienne, se trouve dans l'Ancien Testament? Voilà, quelqu'un dit 75, 70. Ouais, j'ai 77. Donc tu as presque gagné là, Olivier. 77. 7-7. 77% du canon chrétien. Plus de trois quarts des livres et des mots inspirés par le Saint-Esprit se trouvent dans l'Ancien Testament. Et donc, simplement par respect pour la parole de Dieu, nous savons que d'avoir une importance pour nous aujourd'hui. Bon, ça, c'est un point de départ. Deuxièmement, vous avez la lettre B. L'Ancien Testament développe certaines doctrines de manière plus complète que le Nouveau Testament. Le mot qui vous manque là, c'est le mot doctrine. L'Ancien Testament développe certaines doctrines de manière plus complète que le Nouveau Testament. On veut apprendre de Dieu, on veut apprendre tout ce que Dieu nous a à dire. Il y a certains sujets de doctrine et de théologie qui sont développés plus dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous croyons, en tant que chrétiens, dans ce qu'on appelle la révélation progressive. C'est-à-dire que Dieu n'a pas tout révélé en même temps. Notre Bible que nous avons dans la main n'est pas venue dans un seul mois, dans une seule année, et à une seule personne. C'est une grande différence d'ailleurs avec les livres saints d'autres religions. Si vous prenez le Coran pour les musulmans, ça vient d'un seul homme. Ils disent que Dieu l'a révélé. Mais les Mormons disent exactement la même chose par rapport au livre de Mormon. C'est un seul homme qui a trouvé ses écrits, qui les a mis en valeur, etc. Souvent dans d'autres sectes, on revient à une seule personne. Mais ce qui est frappant pour les croyants, c'est que notre foi n'est pas basée sur les révélations ou les écrits d'une seule personne, mais plus de 40 personnes. Et ce ne sont pas des gens qui se connaissaient. Ils ne parlaient même pas tous la même langue. Ils n'habitaient pas dans la même ville, ni la même époque. Ils n'ont pas eu les mêmes circonstances de vie. Il y avait des riches et des pauvres, il y a des fermiers, des gens bien éduqués. Un Moïse et un âgé, et un Matthieu, et un Pierre, et un Josué, enfin, sont des gens extrêmement différents, avec des expériences extrêmement différentes. Et nous voyons là, on voit en fait l'œuvre du Saint-Esprit dans l'inspiration par le fait que ce n'est pas un seul homme qui a tout rédigé. Et à cause de la révélation progressive, il y a des vérités qui sont révélées petit à petit. On peut l'illustrer de deux façons différentes. J'avais un prof qui l'illustrait de façon d'un ballon. Vous avez vu ces ballons d'anniversaire qu'on peut gonfler? Et quand on l'ouvre, on dirait que c'est tout noir, une partie qui est tout noire. Et puis, on commence à gonfler le ballon, et en gonflant le ballon, on voit en fait qu'il y a une image qui se dessine. Ou parfois c'est écrit « Joyeux anniversaire ». C'était toujours là, mais quand le ballon est petit, on ne pouvait pas distinguer tous les traits de ces lettres, ou l'image. Mais en soufflant sur le ballon, et au fur et à mesure que le ballon va grossir, là on voit de plus en plus clair ce qui est écrit. Et il a illustré la révélation progressive de cette manière. C'est pas que la vérité a changé. Quand en Genèse 3, 15, Dieu dit au serpent que la femme aura une semence et cette semence va écraser sa tête et il écrasera son talon. Nous avons le proto-évangélisme, nous avons l'évangile, nous avons la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Tout est là, mais c'est vrai, c'est pas très clair, on voit pas tous les traits. Mais après que c'est grand, on peut revenir à la source et puis voir que c'était là. Vous voyez, mais il fallait quand même d'autres révélations pour plus nous éclairer. Quelqu'un d'autre a illustré l'Ancien Testament comme une pièce qui est richement meublée, mais faiblement éclairée. Et donc on voit dedans et on sait qu'il y a plein de choses. Et on a l'impression même que ce sont des choses d'une grande valeur, mais sans beaucoup de lumière, on distingue mal toutes les richesses qui s'y trouvent. Et le Nouveau Testament vient et met la lumière. Et avec la lumière du Nouveau Testament, on rentre maintenant dans la pièce de l'Ancien Testament. Et là, on voit toutes ces richesses qui étaient là. Elles étaient toujours là. Mais sans le Nouveau Testament pour nous éclairer, on ne pouvait pas bien les distinguer et bien les apprécier. Mais ceci dit, il y a beaucoup de doctrines qui sont très développées dans l'Ancien Testament. Et puis auxquelles le Nouveau Testament va simplement faire appel. Par exemple, la création. Dieu en tant que créateur. Qu'est-ce qu'on ferait sans Genèse 1 et 2? Mais toute la doctrine de la Bible est fondée sur le fait que Dieu a créé les cieux et la terre. Sans un Dieu créateur, un Dieu sauveur qui va recréer ce monde, et pas recréer, mais renouveler ce monde et ressusciter nos corps, etc., et ça n'a pas de sens. Il y a les attributs de Dieu. Si vous voulez noter certaines de ces doctrines, la création, il y a les attributs de Dieu que nous voyons très développés dans l'Ancien Testament. On apprend beaucoup de Dieu en lisant tous les livres de l'Ancien Testament, en fait. Le péché. Le péché est une grande doctrine aussi. Et c'est très développé dans l'Ancien Testament. Sa source. Ses effets, le résultat, la mort qui en suit. Satan aussi. Et même le millénium qui est promis, et il y a des prophéties que nous attendons encore, qui sont pas mal développées dans l'Ancien Testament. Ok, donc je passe à la lettre C. L'Ancien Testament a une grande importance pour le chrétien d'aujourd'hui parce qu'il complète notre compréhension de l'œuvre de Dieu à travers l'histoire. Le mot qui manque là, c'est l'œuvre. De l'œuvre de Dieu à travers l'histoire. Imaginez que les jeunes, que vous allez commencer votre première année à l'université ou dans une grande école ou en école de médecine, mais au dernier mois de cours. Donc les cours vont terminer en juin et vous commencez le 1er mai. Est-ce que ça vous donne de bons sentiments, que vous allez bien réussir? Je pense que non. Il y a des courses comme les maths, si on n'est pas là depuis le début, on est perdu. On est perdu. Et nous avons les Nouveaux Testaments, et on peut lire un Nouveau Testament en soi, mais c'est un petit peu comme ça. De lire le Nouveau Testament sans avoir compris le message de l'Ancien Testament. C'est comme si on entre dans un cours lorsque c'est presque terminé. C'est l'apothéose, certainement. Mais il fallait tous ces cours avant pour nous aider à apprécier. Par exemple, imaginez quelqu'un qui ne connaît rien de l'Ancien Testament, rien du peuple juif, rien de ce système de sacrifice, etc. Et on lui dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va dire, l'agneau de Dieu, seul comme ça, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? La richesse de cette image, l'agneau de Dieu, se trouve et est basée sur une compréhension de l'Ancien Testament. Et même, il est appelé le Fils de l'Homme. Ben là, il faut regarder en Daniel, où il parle du Fils de l'Homme. Il est appelé le Messie, ou loin, ou le Christ. Ben, qu'est-ce que c'est le Messie? Là aussi, il faut comprendre l'Ancien Testament. Vous voyez, on ne peut pas vraiment comprendre Christ, sa personne et son œuvre, sans connaître quelque chose de l'Ancien Testament. C'est essentiel à notre compréhension de l'œuvre de Dieu à travers l'histoire. Quelqu'un a dit que sans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament va nulle part. En fait, moi je sens ça pour un juif, de lire l'Ancien Testament et puis de terminer avec Malachie, c'est comme un avortement en fait. On est presque là, et puis on dit stop, il n'y a rien de plus. Là, c'est comme regarder un film et on l'arrête 10 minutes avant la fin. On le sent, n'est-ce pas, en lisant l'Ancien Testament, que c'est incomplet. On sent qu'il nous faut, en fait, un roi, mais on n'a pas encore trouvé. Il nous faut un prêtre, mais on n'a pas encore trouvé. Il nous faut un prophète pour vraiment révéler Dieu à nous, et on n'a pas encore trouvé. On sent le besoin sans avoir, en fait, la réponse, la satisfaction à ce besoin. Et ça, c'est le rôle de l'Ancien Testament. Ça nous prépare. Je me rappelle, je crois que je vous ai dit ça déjà, mais une conversation que j'avais avec ma femme et une de ses amies musulmanes. Et on lui parlait de Jésus-Christ et elle a dit comme ça, elle a dit facilement, elle a dit, mais si Dieu veut pardonner, il pardonne. Parce que pour le musulman, Dieu est souverain, mais c'est presque tout. Un Dieu souverain, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas à se justifier, etc. Et il y a comme un déclic dans ma tête quand elle a dit ça. Et je me suis dit, c'est pour ça que Lévitique est important. Parce qu'on voit que l'homme, Dieu ne peut pas pardonner comme ça. Dieu est un Dieu qui est juste. Il doit pardonner tout en restant juste. Et comment est-ce qu'il peut pardonner, justifier l'homme par le moyen de, par la foi, tout en restant juste lui-même? Eh bien, l'Ancien Testament nous prépare pour le fait que pour avoir une relation avec Dieu, il faut un sacrifice. Cette question de justice est centrale. L'homme doit être juste pour aller dans la présence de Dieu, mais Dieu ne peut pas faire n'importe quoi et rester Dieu lui-même. Et donc Jésus est la propitiation. Et ce mot, c'était le mot pour le propitiatoire dans l'Ancien Testament, c'était quoi? C'était le couvercle qu'on mettait sur l'arche. Pas l'arche de Noé, hein, l'arche. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? L'arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait la loi, n'est-ce pas? Il y avait les deux tablettes de la loi, l'arche de l'Alliance, elle était dans un lieu très saint, et il y avait le couvercle, qu'on appelait le propitiatoire, l'apaisement de la colère de Dieu. Et une fois par an, le prêtre entrait et mettait du sang sur le propitiatoire. Et le Nouveau Testament va venir et nous dire, Jésus est ce propitiatoire. Il est la propitiation pour nos péchés. C'est lui qui satisfait la juste colère de Dieu. Il y a la loi, on ne peut pas contourner la loi. Mais Jésus le garde à notre place et il meurt à notre place. Vous voyez, l'Ancien Testament est extrêmement important pour pouvoir comprendre l'œuvre de Dieu, même en Jésus-Christ, et puis tout ce que Dieu fait dans ce monde. Tout ce que Dieu fait maintenant et tout ce qu'il va faire même dans l'avenir est très lié à l'Ancien Testament aussi. Et puis la lettre D, cela devrait nous satisfaire en tant que chrétiens. L'Ancien Testament a été fortement respecté et prisé par Jésus-Christ et les apôtres. Jésus-Christ qui va dans le trou. Et... Vous rappelez quand on a eu ce scientifique anglais avec nous, son nom m'échappe là, mais il n'y a pas très longtemps. Et il donnait son témoignage, il était à l'université, puis il était athée, puis il s'est converti, et puis il y avait cette question de la création. Et il a dit, ce qui m'a satisfait, c'est en lisant le Nouveau Testament, j'ai lu que Jésus, clairement, croyait dans la création. Il a dit, si Jésus y croit, moi je vais y croire aussi. J'ai trouvé ça frappant, hein? C'est ça qu'il a convaincu. C'est bon, il venait de recevoir Christ, Christ était tout pour lui, il croyait en Christ. Christ est le chemin, la vérité. Et lui, il croit. Dans la création, il parle de la création, il parle du commencement, etc. Il avait une confiance dans la loi et les prophètes. Et on n'est pas mieux que Jésus-Christ. On ne peut pas dire que Jésus pouvait prophétiser l'avenir, mais il ne savait pas comprendre le passé. Je crois que ça... peut-être on peut regarder plusieurs passages ensemble. Vous pouvez noter Matthieu 5, 17 à 19. Et est-ce que j'ai un volontaire pour le lire? Matthieu 5, 17 à 19. Quelqu'un? Oh la main, allez, levez la main. Allez. Allez, qui va le faire? Ok, Jocelyn. Et puis Viviane, tu peux lire après 2 Pierre 1, 19 à 21. Et puis, Olivier, si tu veux bien lire... De Timothée 3, 14 à 17. Voilà, on va lire ces trois passages. Donc, je vais vous le dire, comme ça vous pouvez noter. Matthieu 5, 17 à 19. Vas-y, Jocelyn.
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.
Voilà, c'est clair, non? Jésus n'est pas venu pour abolir l'Ancien Testament. La loi et les prophètes, qui parlent un peu de tout l'Ancien Testament. Mais il dit en fait, même les plus petits commandements sont importants. Et puis 2 Pierre 1, 19 à 21. Viviane? 2 Pierre, pardon. 2 Pierre 1, 19 à 21.
Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie ou d'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Voilà, un verset clé pour notre compréhension de l'inspiration de la Bible, ces prophéties, et on peut inclure le Nouveau Testament là-dedans, mais certainement l'Ancien Testament, puisque c'est de ça qu'on en pense, on en parle ce matin, ils ont parlé de la part de Dieu, et ils ont été poussés par le Saint-Esprit, et cela ne provenait pas d'une interprétation particulière qu'ils ont eue. Ça vient de Dieu. Donc voyons l'estimation qu'avaient les apôtres aussi pour l'Ancien Testament. Et puis 2 Timothée 3, 14 à 17. Olivier.
Quant à toi, chacun dans ce que tu as appris et retenu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour tout.
Très bien. Merci. Toute écriture parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce que dans sa première lettre, il va parler de l'évangile de Luc et il va l'appeler l'écriture. Donc, on sait que Paul pense aussi au Nouveau Testament. Mais il pense certainement aussi à l'Ancien Testament. Et en fait, quand il dit au verset 14... et 15, depuis ton enfance, tu as connu quoi? Les Saintes Écritures. Il parle à Timothée, depuis ton enfance, tu as connu les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, là, certainement, c'est quoi? C'est certainement pas le Nouveau Testament, en fait. Hein? Ça doit être l'Ancien Testament. Et donc, il parle de l'Ancien Testament. Oui, parce que le Nouveau Testament n'a pas encore été rédigé à l'enfance de Timothée, même s'il est plus jeune que Paul. Et il apprend ça de sa mère et de sa grand-mère. C'était des juives croyantes. Et il dit, ce sont des saintes lettres, ou des saintes écritures, qui sont capables de te donner la sagesse qui nous amène jusqu'au salut. Et c'est vraiment un passage fondamental pour la doctrine de l'inspiration, et de l'utilité aussi de l'écriture. Mais il ne faut pas oublier que Paul pense spécifiquement aussi à l'Ancien Testament. Et donc, l'Ancien Testament enseigne, convainc, corrige et instruit dans la justice. Et nous rend accomplis et propres pour toute bonne œuvre. Et puis, juste après le chapitre 4, Paul va dire à Timothée quoi ? Prêche la parole. Et dans le contexte, il pense toujours à l'Ancien Testament. Donc il dit au ministre du Nouveau Testament, prêche l'Ancien Testament. Donc, je crois que c'est clair que si on veut minimiser l'importance de l'Ancien Testament, on se fait mieux que Jésus et les apôtres. Il voyait certainement son importance. Alors, le grand 3, là, quelques réflexions sur la relation entre ces deux testaments. Et la lettre A, ce qui vous manque, c'est le mot ancienne. L'ancienne alliance affecte l'application de l'Ancien Testament à des degrés divers. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Je vais essayer de m'expliquer. Nous lisons parfois des commentaires négatifs sur la loi. Romains 6, par exemple, va dire, nous sommes plus sous la loi, hein, mais sous la grâce. Et donc, si on comprend loi comme ça, comme étant l'Ancien Testament, on peut dire, on n'est plus sous l'Ancien Testament. Elle n'a pas de rôle dans notre vie. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'en fait, parfois, quand il parle de la loi, il parle de cette alliance. Testament veut dire alliance. On a parlé de ça il y a longtemps. On peut dire, je suis en train de lire Victor Hugo. Bon, on n'est pas en train de lire la personne, on est en train de lire les écrits de la personne. Et on est en train de lire l'Ancien Testament, c'est-à-dire on est en train de lire les écrits de l'Ancienne Alliance. Et le Nouveau Testament est clair que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse. Elle a été remplacée dans un sens par la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus-Christ. Donc, en lisant les écrits de l'ancienne alliance, écoutez-moi bien, pour que j'essaie d'être très, très clair pour ne pas tomber dans l'erreur ici. Quand je lis les écrits de l'ancienne alliance, je ne le lis pas comme étant moi-même sous l'ancienne alliance. Donc, quand moi je lis Lévitique, par exemple, je ne le lis pas comme quelqu'un au temps de Josué, ou un des rois, en un roi ou deux rois. Quand eux, ils ont lu ça, il faut offrir ces sacrifices, bah, ils se sont dit, mais il y a des rois qui ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit, il faut qu'on le fasse, on y va. Ils ont réuni le peuple, ils ont reconstruit le temps, enfin pas reconstruit, mais ils ont rétabli les sacrifices et restauré le temple, et ils ont recommencé à célébrer ces... Mais nous, en lisant ça, on ne va pas dire, ah, il faut qu'on recommence les sacrifices. Vous voyez pourquoi? Parce que nous lisons les mêmes écrits, mais d'une autre perspective. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Et donc, l'ancienne alliance affecte l'application, on peut dire, des écrits de l'ancienne alliance à des degrés différents. Quand je lis Lévitique, y a un grand changement en lisant Lévitique que quelqu'un à l'époque de Moïse. Mais quand je lis les psaumes, parfois, ça dépend, hein, les psaumes. Il y a des psaumes où on voit vraiment que ça va affecter quelqu'un sous la nouvelle alliance différent que lorsqu'il était sous l'ancienne alliance. Mais il y a d'autres où je peux les lire presque à l'identique que lirait un croyant sous l'ancienne alliance. Donc c'est ça qu'on essaye de dire ici. L'alliance de Moïse va nous affecter bien différemment qu'eux, mais en lisant les proverbes ou Ecclésiaste, on peut lire presque de la même façon que lirait un croyant sous l'ancienne alliance. En fait, il y a des livres où on voit beaucoup de cet élément païen ou non-juif. Il y a des prophéties contre les nations en Daniel, les nations païennes. Et puis il y a des livres qui semblent très juifs, comme Ruth ou Esther, certains des psaumes, mais d'où nous pouvons tirer quand même des vérités théologiques qui sont beaucoup plus larges et grandes et qui nous affectent encore aujourd'hui. Voilà, donc en tant que chrétien, nous lisons l'ancienne alliance, mais nous rappelons que nous sommes sous la nouvelle alliance. Et puis la lettre B, je crois que l'essence de la nouvelle alliance, c'est ça qui va donc dans le trou, l'essence de la nouvelle alliance est l'intériorisation des principes moraux et spirituels de l'ancienne alliance. Ce qui s'est passé sous l'ancienne alliance, c'était un arrangement avec Israël comme une nation théocratique. Ce n'était pas une démocratie, hein, c'était une théocratie, Dieu qui régnait sur eux. Et ça a servi à démontrer le péché de l'homme et le conduire à la foi dans les provisions faites par le Messie de Dieu. Néanmoins, l'Ancien Testament a prédit que Dieu allait prendre ses lois et les écrire dans le cœur. Jérémie 31 va écrire ses lois dans nos cœurs. Et Hébreux 8 va reprendre cette même citation, c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, pour nous dire, effectivement, c'est ce qui arrive. Dieu écrit maintenant sa loi dans nos cœurs. Il y a une intériorisation de la loi. Ce n'est plus la loi externe sur des tablettes. En fait, c'est la loi en nous. Comme Jésus a dit, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain, ça, en fait, c'est l'accomplissement de toutes ces lois. Donc, l'essence de la nouvelle alliance, c'est cette intériorisation des principes moraux et spirituels de l'Ancien Testament. La nouvelle alliance va garder tous ces principes, toutes ces vérités concernant Dieu, mais va les rendre internes. Donc, avec parfois des... Ils vont ressortir encore, hein, mais pas forcément exactement de la même façon. Une autre illustration qui vient de l'Écriture, c'était comme si avant ils étaient dans leur enfance, le peuple de Dieu était dans son enfance, et que maintenant ils sont devenus adultes. Dans son enfance, quand un jeune est petit, on lui dit quoi, ce qu'il va porter, hein, tu vas mettre ses chaussures, cette chemise, etc. Quand ils deviennent adultes, ils vont choisir eux-mêmes ces choses. Mais on espère qu'ils vont intérioriser des principes de modestie, par exemple, chrétienne, qui vont le refléter eux-mêmes en faisant eux-mêmes leur propre choix. Et le Nouveau Testament nous donne vraiment beaucoup d'options, en fait. Nous pousse à réfléchir nous-mêmes. Éphésiens 5 va dire « Cherchez et trouvez la volonté de Dieu. » Donc, il ne va pas ici nous dire « Vous n'avez pas le droit de raser les coins de votre barbe. Vous devez porter ce vêtement, pas ce vêtement. » En fait, beaucoup de ces choses, il nous laisse à nous-mêmes, mais en nous demandant d'appliquer les mêmes principes en tant qu'adultes. Et puis, il faut que j'avance. La lettre C, l'Ancien Testament continue à témoigner, donc continue aujourd'hui encore, à témoigner du caractère immuable de Dieu. Immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Nous n'avons pas deux dieux différents. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. Dieu est aussi juste, aussi souverain, aussi puissant aujourd'hui qu'il était au temps de Moïse. C'est le même Dieu. Mais il déverse sur nous sa grâce en Jésus-Christ. Et on peut trouver la révélation de Dieu. Vous pouvez lire l'Ancien Testament en disant « Je vais noter tout ce que j'apprends de Dieu. » Et vous allez avoir tout un cahier. C'est une bonne manière de lire parfois. Que me dit ce texte de Dieu lui-même? Et dans tous les différents parties de l'Ancien Testament, hein, vous allez trouver que Dieu se révèle. Il se révèle dans ses paroles, mais il se révèle dans ses actes. Il se révèle dans ses réactions à l'homme et à son péché. Toutes ces choses nous parlent de Dieu et de son caractère. Donc, conclusion. Lisez l'Ancien Testament. Mais moi, je suggère de le lire avec le Nouveau Testament. De lire un peu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Parfois, bon, si vous voulez faire un plan, une année où vous lisez du début à la fin, je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous allez attendre, vous allez arriver au dernier quart de l'année avant de commencer le Nouveau Testament. Bon, peut-être c'est une bonne chose, ça va vous faire apprécier l'attente qu'ils ont eue pendant des milliers d'années pour Jésus-Christ. Mais comme une règle générale, je crois que c'est bien de lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament nous fait apprécier, comprendre mieux le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament éclaire encore plus l'Ancien Testament, et on commence à voir les liens qui existent entre les deux. Voilà, merci pour votre attention, que Dieu vous bénisse, on va se saluer.